Excellent réveil, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Chacun commence déjà à s'organiser pour respecter le couvre-feu à partir de 18h dès demain dans toute la France. C'est la principale mesure annoncée hier par Jean Castex, car la situation, bien que maîtrisée, reste fragile, explique le Premier ministre. Renforcement du protocole sanitaire dans les cantines, fin des activités sportives en intérieur pour les enfants. Des particuliers aux écoles donc, chacun se réorganise, plus ou moins convaincu par ces mesures, vous l'entendrez.
Des vaccins aussi pour les malades à haut risque et les personnes handicapées dès lundi.
800 000 personnes concernées, ainsi les plus de 75 ans. Détails sur ces annonces et la situation sanitaire actuelle dans un instant.
Face à la pandémie aussi, Joe Biden présente un plan de relance à 1900 milliards de dollars aux États-Unis.
À la une, encore une manifestation en Turquie devant le consulat chinois pour dénoncer le traitement des Ouïghours par Pékin et les demandes d'extradition contre ces musulmans que la Chine accuse de terrorisme.
Et puis les vaccins face aux variants, Catherine, c'est dans une dizaine de minutes. La question du jour, va-t-il falloir repartir deux zéro, je poserai la question à un virologue, Étienne De Crolly.
Il faudra donc rentrer chez soi plus tôt dès demain. Couvre-feu à 18h dans toute la France, c'est une question de lisibilité et d'efficacité, a expliqué hier soir le Premier ministre Jean Castex, alors que près de 25 000 personnes sont toujours hospitalisées en France à cause du Covid-19.
Notre situation, je la qualifierais par deux mots. Maîtrisé par rapport à ce que l'on observe chez nos voisins, mais fragile, car le virus circule encore activement sur notre territoire. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours.
Jean Castex, hier soir, a expliqué que la situation sanitaire n'exigeait pas de mettre en place un nouveau confinement. Situation que nous allons maintenant voir dans le détail avec vous, Tara Schlegel. Bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement s'inquiète de voir la pression toujours aussi forte sur les hôpitaux et Jean Castex craint aussi la circulation des variants du Covid, Tara.
Oui, il parle d'une situation maîtrisée mais fragile car les variants menacent. Le plateau actuel est élevé, 16 000 contaminations en moyenne par jour et toujours 2 711 personnes en réanimation, 95 de plus que la semaine dernière. C'est une pression forte sur les hôpitaux. Et puis il y a ces nouvelles souches, le variant britannique qui atteint le sol français à raison d'une personne dépistée environ toutes les 100 personnes testées positives au Covid en France. Ça fait, estime le ministre de la Santé, entre 200 et 300 contaminations par le variant anglais chaque jour. On fait tout pour tracer ces malades, notamment ceux qui souffrent du variant sud-africain, avec un cluster en Île-de-France et possiblement un deuxième cluster repéré à Nantes. Il touche des touristes partis au Mozambique pour un rassemblement religieux et tout est fait pour les isoler et surveiller leurs proches. Si on instaure le couvre-feu à 18h, c'est aussi que ça marche, assure Jean Castex, avec, dit-il, 2 à 3 fois moins de contaminations dans les 15 départements qui ont déjà expérimenté cette mesure. Il faut le généraliser, car c'est dans l'Ouest en ce moment que la progression de l'épidémie est la plus forte, et plus seulement dans l'Est.
Et le gouvernement confirme aussi, Tara, que la campagne de vaccination va s'amplifier.
Oui, ça s'accélère, hein. 318 000 personnes protégées à ce jour. La campagne pour les plus de 75 ans va démarrer lundi. Avec l'accord de la Haute Autorité de Santé, 800 000 personnes particulièrement vulnérables pourront également demander à se faire vacciner dès lundi. Les personnes greffées, les malades du cancer, les personnes atteintes de trisomie ou d'insuffisance rénale chronique. En tout donc, 6,4 millions de Français qui d'ici février peuvent prétendre au vaccin. Mais il va falloir être patient parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, même si le vaccin AstraZeneca était autorisé rapidement, eh bien, il n'y aurait pas plus de 4 millions de doses d'ici fin février. Il va falloir aussi roder les plateformes de prise de rendez-vous. Mercredi, le site internet, qui n'était visiblement pas de taille à le supporter, a reçu 8000 demandes de connexion par seconde.
Tara Schlegel, merci pour ces explications. Effectivement, beaucoup de demandes de vaccination. Encore hier, puisque les plus de 75 ans avaient la possibilité de prendre rendez-vous sur le site santé.fr, lancé par l'exécutif, mais il a planté. Par ailleurs, tous les lieux de vaccination n'ont pas encore été recensés. De nouveaux retards à l'allumage, sur lesquels nous revenons dans le journal de 7h30. Mais pour l'heure, arrêtons-nous sur une autre mesure pour limiter la propagation du Covid, le renforcement du protocole sanitaire dans les écoles. Il faut éviter le brassage des classes à l'heure des repas dans les écoles primaires. Dans les collèges et lycées, c'est impossible en raison des effectifs. À chaque commune, à chaque établissement scolaire, de s'adapter. s'adapter donc au cas par cas selon les cantines. Le ministre de l'Éducation appelle également à élargir l'hybridation des cours dès le collège. En clair, des cours en présentiel dans les classes habituelles, mais aussi avec des cours en ligne à Kim Kasmi.
L'hybridation des cours au lycée est finalement maintenue au-delà du 20 janvier, un dispositif qui sera désormais applicable aussi au collège pour les 4e et les 3e dans les établissements qui manqueront de place. Ce qui va demander de l'anticipation, souligne Jérémy Girard, le président du SNALC.
On était supposé préparer depuis la rentrée scolaire des moyens d'accueillir les élèves les jours où ils ne seraient pas à l'école, c'est-à-dire que l'on puisse trouver des lieux mis à disposition, du matériel informatique et des personnels pour les encadrer, que ce soit des personnels de l'éducation nationale ou des collectivités locales. Faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on se retrouve avec des problèmes de mise en œuvre de l'hybridation, parce qu'en fait, on ne l'a pas préparé et ça peut pas se faire d'un claquement de doigts en une semaine.
À la cantine, dans le secondaire comme le primaire, le non-brassage des élèves reste la règle. Sauf que les écoles ont déjà atteint leurs limites. Guylaine David, la secrétaire nationale du SNUPP, en appelle donc aux mairies.
Ce qui a été proposé, et notamment par certains maires et certaines municipalités, c'est de multiplier les espaces de restauration, c'est-à-dire trouver dans les lieux autour de l'école des espaces pour pouvoir isoler les élèves pour manger. Ça peut être aussi, comme ça s'est fait déjà au mois de mai, au mois de juin, au moment du déconfinement, de manger dans les salles de classe, mais ça nécessite du personnel périscolaire pour surveiller les élèves qui mangent dans les salles de classe.
Quant aux établissements qui n'auront pas de locaux supplémentaires, ils devront proposer à leurs élèves des pique-niques. Une solution loin d'être satisfaisante en plein hiver, préviennent les enseignants.
À noter encore la fin des activités sportives en intérieur pour les enfants. Et puis au chapitre économique, le couvre-feu avancé à 18h coûterait selon Bercy 2 milliards d'euros tous les 15 jours, sans compter le chômage partiel. L'État compensera jusqu'à 20% du chiffre d'affaires dans la limite de 200 000 euros par mois. Mais il faudra avoir eu 70% de pertes de chiffre d'affaires. Autre mesure choc annoncée hier, les frais fixes des entreprises, loyers, électricité, impôts seront pris en charge par l'État à 70% dans la limite de 3 millions d'euros par mois, à condition tout de même d'appartenir à un secteur éprouvé par la crise, comme l'hôtellerie ou les remontées mécaniques, et surtout d'avoir un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Alors que la France renforce ses contrôles aux frontières à partir d'aujourd'hui, le Royaume-Uni interdit, lui, depuis ce matin, les arrivées sur son sol à tous ceux qui viendraient d'Amérique du Sud et du Portugal en raison d'un nouveau variant du coronavirus découvert au Brésil. Et puis nous vous parlions hier dans ce même journal de la détresse psychologique qu'engendre la crise sanitaire et économique avec des services psy qui voient les patients affluer en Angleterre notamment. Eh bien, pour explorer notre subconscient, pour voir comment la pandémie pèse sur nos esprits jusque dans notre sommeil. Le musée de Londres a recueilli pendant près de 2 mois par mail des témoignages sur les rêves sur la pandémie. Ce projet, intitulé « Les gardiens du sommeil » entre dans sa 2e phase aujourd'hui. Les récits des volontaires vont être enregistrés avant d'être publiés sans analyse ni interprétation. Un témoignage brut sur lequel on revient dans le journal de 8h.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu pour sortir les États-Unis de la crise. Joe Biden a proposé hier un plan de relance à 1 900 milliards de dollars.
Se traduisant par un chèque de 1 400 dollars pour chaque Américain et pour relancer également la consommation, le président élu qui entrera en fonction mercredi prochain propose de faire passer le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l'heure, près du double d'aujourd'hui. Joe Biden, qui s'exprimait hier soir depuis son fief de Wilmington dans le Delaware, se dit persuadé que la situation économique ne pourra s'améliorer que si la crise sanitaire se résout.
Plus nous allons vacciner de personnes, plus vite nous allons le faire et plus nous allons mettre cette pandémie derrière nous. Nous allons revenir à nos vies d'avant et retrouver ce que nous aimons. Et c'est ainsi que nous allons sauver et reconstruire notre économie la plus dynamique au monde. Aux millions d'entre vous qui veulent continuer à se battre, je vous le promets, on n'oubliera pas ce que vous venez de traverser. On comprend ce que vous traversez et jamais on ne vous abandonnera. Nous allons reconstruire ensemble. Alors rejoignez-moi mercredi prochain. On va entamer un nouveau chapitre. Je suis très confiant. Ensemble, nous allons y arriver et ressortir plus fort de cette crise.
Joe Biden, traduit par notre correspondant aux États-Unis, Gregory Phillips. Autre dossier sur le bureau du futur locataire de la Maison-Blanche dès mercredi, le désengagement militaire des États-Unis en Afghanistan. Il connaît aujourd'hui une nouvelle étape, Valérie Crova.
Donald Trump a tenu parole, 2500 soldats américains vont pouvoir rentrer chez eux. Ils étaient 4500 en novembre à prendre le chemin du retour, 5000 en juin dernier. La récente victoire de Joe Biden ne devrait pas changer la donne. Pendant sa campagne, le président élu a promis de mettre fin aux guerres interminables et de rapatrier la grande majorité des boys présents sur le sol afghan, tout en maintenant sur place une mission de contre-terrorisme pour lutter contre Al-Qaïda et l'État islamique. Le retrait américain qui s'accélère suscite nombre d'inquiétudes en Afghanistan, mais aussi parmi les alliés des États-Unis au sein de l'OTAN, car chaque jour qui passe bénéficie aux talibans, lesquels continuent leur inexorable avancée. Tandis que les pourparlers de paix ont repris à Doha, au Qatar, début janvier, sans donner de résultats tangibles, certains soupçonnent les émissaires des talibans de jouer la montre en attendant le 1er mai, date prévue du départ du dernier soldat américain, et surtout de prendre langue avec la nouvelle administration américaine pour savoir quelle sera la politique étrangère du 46e président des États-Unis.
La Chine devrait annoncer dans les heures à venir son plus faible taux de croissance annuel en plus de 40 ans à cause du Covid. Pékin, également miné sur le plan international pour son traitement des Ouïghours, cette minorité musulmane, victime en Chine d'un système de détention arbitraire de masse. Un accord oblige les autorités d'Ankara à renvoyer en Chine les ressortissants soupçonnés de terrorisme. Un accord dénoncé hier devant le consulat de Chine à Istanbul. C'est un reportage de Sophie Fournier.
Devant le consulat, une cinquantaine de personnes se dressent en rang et en silence. Dans leurs mains, des pancartes. Les photos d'un parent, d'une sœur ou d'un mari dont ils n'ont plus de nouvelles. Ce sont tous des Ouïghours, une minorité habitant le Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine qu'ils nomment Turkestan oriental. Les Ouïghours parlent une langue turcique. Ils sont en majorité musulmans. Alimjan Tourdi cherche 7 membres de sa famille depuis plus de 4 ans.
Ils n'ont commis aucun crime. Ils sont innocents. Je ne sais pas s'ils sont dans un camp, une prison. Si on les fait travailler comme des esclaves, si on a prélevé leurs organes pour les vendre, je ne sais rien.
Les camps dont parle cet homme sont ceux que Pékin appelle des centres de formation. Selon des ONG internationales et les Nations Unies, au moins 1 million de Ouïghours y sont en fait internés de force. Alimjan Tourdi.
En plus des camps, beaucoup sont en prison uniquement parce qu'ils ont étudié, voyagé ou commercé à l'étranger. Je veux juste que mes proches viennent vivre librement en Turquie.
Plus du tiers des Ouïghours réfugiés en Turquie ont acquis la nationalité du pays. Beaucoup d'autres ont un permis de séjour, mais environ 10 000 d'entre eux y vivent clandestinement. Ce sont eux les plus menacés par le traité d'extradition ratifié par la Chine en décembre dernier. Ali, 26 ans, dont la mère est enfermée dans un camp, veut croire que la Turquie ne ratifiera pas le texte.
Ce serait une honte pour la Turquie. Nous nous sommes réfugiés ici car nous considérons les Turcs comme un peuple frère. Nous avons donc beaucoup d'attentes à l'égard de la Turquie. Si cet accord est ratifié, les Ouïghours se sentiront trahis.
Pour l'instant, la Turquie se défend de vouloir livrer les Ouïghours à la Chine, pour citer son ministre des Affaires étrangères. Mevlüt Çavuşoğlu a assuré que son pays n'avait jusqu'ici jamais donné suite aux demandes d'extradition de Ouïghours formulées par Pékin.
Sophie Fournier à Istanbul pour France Culture. Le temps de ce vendredi 15 janvier encore marqué par de la neige dans le nord-est, quelques éclaircies mais surtout des nuages dans le reste du pays. Au meilleur de la journée, il fera entre 0 et 13 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. À suivre, un DJ molécule et une protéine spike. Et oui, on va parler dans quelques secondes du vaccin et des virus.